VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Bamako, 19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Excusez-moi. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Nigeria, une explosion a secoué. Aujourd'hui, une gare routière à Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du pays. C'est ce qu'ont déclaré à l'AFP un milicien combattant les islamistes de Boko Haram. Et un habitant, au moins 20 personnes auraient été tuées. À une semaine des élections législatives et communales, des élections très controversées au Burundi, au moins 4 personnes ont été tuées et une trentaine blessées dans la nuit de dimanche à lundi, dans une nouvelle série d'attaques à la grenade dans le nord du pays à Bujumbura. Jacques Aristide.
Dans la capitale, 2 policiers ont été blessés par une grenade ce lundi matin lors d'une patrouille dans le quartier contestataire de Muzaga, rapporte l'AFP. 3 autres attaques ont été perpétrées dans les provinces du Kirundo, Muyinga et Ngozi, qui est la région natale et fief du chef de l'État. D'après des sources policières et administratives, ce sont notamment des bars qui ont été visés. Les réactions n'ont pas tardé. La présidence burundaise a immédiatement imputé ces nouvelles violences à une partie de l'opposition et de la société civile. L'opposition, elle, a nié toute responsabilité, accusant le pouvoir de chercher à instrumentaliser ces attaques pour se débarrasser de ses contradicteurs. 11 policiers avaient déjà été blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans plusieurs attaques à la grenade dans la capitale. Bujumbura est depuis fin avril l'épicentre du mouvement anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Il est candidat à la présidentielle prévue le 15 juillet, 2 semaines après les législatives et communales programmées le 29 juin.
En Guinée, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition reprend aujourd'hui après une brève interruption samedi, pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante de confirmer l'annulation du chronogramme des élections communales souhaitée par l'opposition et donc maintenant souhaitée également par la mouvance présidentielle. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Le dialogue politique se déroule en présence de la communauté internationale. Ibn Chambas, représentant le secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, se dit optimiste.
Nous saluons les disponibilités, les deux côtés, le mouvement et l'opposition, de continuer d'échanger, de dialoguer, trouver des solutions pour qu'on puisse aller aux élections inclusives, transparentes et crédibles.
De son côté, le président du cadre du dialogue, le ministre guinéen de la Justice, assure que toutes les conclusions seront respectées. Maître Cheikh Sako.
Je tiens à affirmer ici que toutes les décisions arrêtées consensuellement entre les deux parties seront appliquées afin que lundi nous puissions avancer dans le sens souhaité par tous les Guinéens dans notre pays.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En République démocratique du Congo, un calme précaire règne à Kotakoli, un camp militaire situé dans le nord de la province de l'Équateur, après une mutinerie de plus de 800 ex-rebelles et miliciens. Les précisions d'Eddie Sango.
Le week-end aura été marqué par des pillages dans ces centres d'instruction commando transformés en un camp de démobilisation dans la province de l'Équateur. Dépôts de munitions et bureaux du coordonnateur ont été les plus visés. Les ex-membres des groupes armés qui y sont concentrés avaient refusé toute négociation avec le gouvernement avant de se calmer. Mais ils ont donné 3 jours aux autorités pour qu'une solution soit trouvée. Ils exigent d'être intégrés dans l'armée ou alors d'être renvoyés chez eux car ils vivent dans ces camps depuis 2 ans et estiment être abandonnés. Pour leur part, les autorités estiment que les ex-combattants enfoncent une porte déjà ouverte. Les porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a annoncé sur Radio Okapi, radio soutenue par l'ONU, que la délocalisation de ces camps avait déjà été décidée et se fera incessamment. En octobre dernier, Human Rights Watch avait dénoncé la mort par la faim et par la malaria d'une centaine de personnes dans ces camps.
Le dirigeant soudanais, recherché pour génocide par la Cour pénale internationale, n'a pas été inquiété à l'issue du sommet de l'Union africaine. Pretoria aurait tout organisé à l'avance. C'est l'information relayée par plusieurs organes de presse. Information démentie aujourd'hui par Pretoria. Salwa Jaafari.
Ce qui est fait est fait. Omar al-Bashir a été accueilli en héros à son arrivée à Khartoum. Malgré une décision de justice qui lui interdisait de quitter le territoire, le président soudanais est parvenu à quitter sans entrave l'Afrique du Sud, où il participait à un sommet. Que s'est-il passé exactement? Les médias en ont fait leur chou gras ces derniers jours. Certains ont accusé le gouvernement de Pretoria d'avoir planifié le départ du chef d'État bien avant le démarrage du sommet. Accusation rejetée en bloc par le gouvernement sud-africain. L'Afrique du Sud étant l'un des membres fondateurs de la CPI, elle était en théorie tenue d'empêcher la venue du président soudanais sur son territoire ou de l'arrêter s'il venait à s'y trouver. Selon le Sunday Times, qui cite sans les nommer plusieurs sources haut placées, un plan avait été préparé d'avance par 5 ministres d'Ouzouma pour que Béchir ne soit pas inquiété. L'hebdomadaire ajoute que le président soudanais a été exfiltré par des policiers chargés de la protection rapprochée du président sud-africain. Le gouvernement dément catégoriquement ces allégations. Il doit fournir d'ici jeudi au tribunal un rapport expliquant comment le président al-Bashir a quitté le pays. L'affaire doit également être abordée mardi au Parlement sud-africain.
Pas de surprise en Éthiopie à l'annonce des résultats des élections. Comme attendu, la coalition au pouvoir a remporté une victoire écrasante. Michel Joseph.
En obtenant 546 des 547 sièges de la Chambre des représentants du peuple au Parlement, le PRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, remporte une victoire sans appel. Cette coalition de 4 grands partis qui dirigent l'Éthiopie depuis 1991 remporte 500 circonscriptions, 46 autres sièges se répartissant entre des petites formations régionales qui lui sont alliées. Ces élections sont les premières depuis la mort en 2012 du Premier ministre Meles Zenawi, qui avait incarné le pouvoir en Éthiopie depuis le renversement de Mengistu Haïle Mariam, chef de la junte qui dirigea l'Éthiopie durant la Terreur rouge entre 1974 et 1991. L'un des principaux partis de l'opposition éthiopienne, le parti Sema Yawi, avait dénoncé fin mai un déni de démocratie après l'annonce de résultats provisoires montrant que le PRDF s'acheminait vers une victoire écrasante. Symbole de la famine dans les années 1980, le pays affiche désormais une croissance économique de 10% selon la Banque mondiale. Des ONG de défense des droits de l'homme dénoncent un développement économique à marche forcée dont les populations locales et l'environnement paient le prix fort. Mais également le caractère autoritaire du régime, les atteintes à la liberté d'expression et la volonté d'étouffer toute voix dissidente.
Le président américain Barack Obama se rendra en visite en Éthiopie fin juillet après sa visite officielle au Kenya. Il y rencontrera notamment les responsables de l'Union africaine. C'est la première fois qu'un président américain se rend en Éthiopie.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, la tuerie de Charleston qui ravive aux États-Unis nombre de débats. La question raciale a-t-elle évolué depuis l'arrivée du président Obama? Est-il temps de prohiber le drapeau confédéré, symbole de l'oppression des Africains américains? Et pourquoi, en dépit de la multiplication de tragédies, la loi sur les armes ne change pas? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Et l'actualité dans le reste du monde, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont lancé aujourd'hui une mission navale de lutte contre le trafic de migrants en Méditerranée. Dans un premier temps, il s'agira de collecter les informations et d'intensifier les patrouilles dans les eaux internationales pour tenter de détecter et surveiller les passeurs. Israël et les groupes armés palestiniens ont commis de possibles crimes de guerre lors du conflit à Gaza en 2014, estime un rapport d'enquête des Nations Unies, publié aujourd'hui à Genève. Et puis en Afghanistan, 7 talibans lourdement armés ont attaqué le siège du Parlement à l'aide d'une voiture piégée, alors que les députés siégeaient à l'intérieur du bâtiment. 2 personnes ont été tuées par l'explosion, mais aucun député n'a été blessé. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir Le Monde Aujourd'hui, présenté par Morgane Guériec et Chérubin Dorsil. Retrouvez-nous 24h sur 24 sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.